Mes bien chers frères, tout d'abord, je vous annonce que le frère Denis du Sacré-Cœur est désormais sous-diacre, que nous avons un prêtre de plus en Irlande pour la fidélité catholique, l'abbé Hoops, et que Monseigneur Williamson va bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons voir que Dieu est vivant. Saint Thomas d'Aquin pose la question, Dieu est-il vivant? C'est une évidence que oui. Et encore une fois, il s'agit plus de répondre à la question, quels sont les rapports entre la vie de Dieu et notre vie? Ou bien comment peut-on arriver à comprendre que Dieu est vivant en partant de notre notion de vie humaine? Et c'est très important cela, parce que nous avons aujourd'hui une fausse notion de la vie. Le monde moderne a saisi cette notion fondamentale de vie, qui est très importante, l'a complètement faussée, et du coup, sous prétexte de vie, nous entraîne même vers la mort. On le voit par exemple avec le Corona Circus. Sous prétexte de vie, on a éteint la vie dans les pays, dans les entreprises et même à l'intérieur de nous-mêmes. Le sermon sera en trois parties. Première partie, qu'est-ce que la vie? Saint Thomas d'Aquin, d'une façon très 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 simple, suit Aristote et constate qu'on parle de vie lorsqu'il y a un mouvement, mais un mouvement qui vient de l'intérieur. On ne dit pas qu'une feuille morte est vivante quand elle est poussée par le vent. Par contre, on dit qu'un arbre est vivant parce que il a grandi, on constate qu'il grandit. On constate qu'un animal est vivant parce qu'il bouge, etc. Donc, je n'ai plus besoin de vous expliquer, depuis que vous entendez mes sermons, et notamment celui sur le changement au tout début de l'épreuve de l'existence de Dieu, tout changement est un passage d'un état imparfait à un état plus parfait, c'est-à-dire l'acquisition d'une perfection. Et par conséquent, tout changement est appelé à s'arrêter parce que lorsqu'on a obtenu la perfection, il serait évidemment complètement fou de repartir en quête d'autre chose, c'est-à-dire de quitter la perfection qu'on a acquise. Bien sûr, on peut toujours chercher d'autres perfections si on n'a pas trouvé la perfection absolue. C'est ainsi que, si j'étudie les sciences, je peux étudier la biologie après avoir étudié les sciences naturelles ou des choses comme cela. Mais lorsqu'on parvient à une perfection, plus elle est grande, plus elle est parfaite, et plus par conséquent elle satisfait notre désir, et par conséquent moins on va chercher ailleurs. C'est évidemment particulièrement vrai pour quelqu'un qui a trouvé la foi. Quelqu'un qui s'est converti à la foi en Jésus-Christ ne repart pas en quête de recherche d'autres religions ou que sais-je, ou d'autres vérités. Il a trouvé la vérité est une, elle est en Dieu, et du coup il a compris que tout le reste était des erreurs. Donc on doit affirmer que tout changement s'achève dans un état de stabilité parfaite. Maintenant, saint Thomas compare les diverses vies. Vous avez la vie végétative, celle des plantes, c'est vraiment une croissance de l'intérieur, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la vie des animaux, et dans les animaux, la vie de la moule n'a pas la même valeur que la vie du lapin. Et cette vie animale est une vie sensible, c'est-à-dire qu'ils voient de loin ce vers quoi ils se portent. Ils vont chercher leur nourriture alors que la plante ne va pas la chercher. Et l'animal a un instinct qui lui fait voir, même s'il ne comprend pas évidemment la raison des choses, lui fait voir ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Au-dessus de la vie sensible se trouve la vie intellectuelle, qui est celle des hommes qui cherchent la vérité. C'est une des grandes constatations que nous faisons aujourd'hui avec tous ceux qui nous rejoignent et qui se convertissent, qui viennent à la vraie foi. Le motif est toujours d'avoir cherché la vérité et d'avoir trouvé la vérité, et ils s'arrêtent là où ils ont trouvé la vérité. Et puis, infiniment au-dessus de la vie intellectuelle, qui pourtant elle-même est déjà très 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 au-dessus de la vie sensible, infiniment au-dessus de la vie intellectuelle, se trouve la vie dans la grâce, l'habitation de Dieu dans l'âme des justes. Cela, je vous en ai parlé. Dieu connu et aimé comme un ami est connu et aimé, mais à l'intérieur de nous et non plus à l'extérieur. Et voilà pourquoi on parle de vie intérieure, de vie spirituelle. Toute vie est intérieure, hein. Une vie extérieure, c'est un contresens. Elle peut avoir des effets à l'extérieur, mais elle est intérieure. Et on parle de vie spirituelle, et puis surtout de vie surnaturelle, de vie de la grâce. Alors maintenant, mes bien chers frères, je voudrais vous faire prendre conscience de ce qu'est plus profondément la vie, et quelles sont les vies qui en valent la peine et celles qui n'en valent pas la peine. C'est la deuxième partie du serment. On dit qu'un enfant, un jeune, qui court à droite et à gauche, est plein de vie. Dit-on qu'un vieillard est plein de vie? Non. Pourquoi cela? Parce que nous sommes sensibles aux impressions extérieures et nous ne voyons pas la vie du vieillard. Alors que nous voyons la vie de l'enfant, il court derrière un ballon. En réalité, lequel est le plus vivant? Le vieillard qui a accumulé par son expérience toute une connaissance des choses, toute une connaissance de la vie, toute une connaissance de l'essentiel de la vie, qui ne peut plus courir derrière un ballon, mais qui peut encore donner des conseils sur la conduite d'une famille, et qui attire ses petits-enfants à cause de sa sagesse. Il y a en lui une richesse qui dépasse de très loin la vie de l'enfant ou du jeune qui court derrière un ballon. Il faut en dire autant si on compare une entreprise de fabrication, une usine, avec un monastère. Lesquels sont les plus vivants? Les ouvriers qui fabriquent des avions à réaction ou que sais-je, ou bien des moines, surtout des contemplatifs, des chartreux, qui ne fabriquent rien. Vous me direz, ils fabriquent la chartreuse. Oui, mais les frères, pas les pères. Les pères ne fabriquent rien du tout. Ou bien des moines, lesquels sont les plus vivants? Lesquels sont les plus proches de la vie de Dieu? Parce que c'est cela, en définitive. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas encore décrit ce qu'était la vie de Dieu. Je sais, enfin, vous en avez une notion intuitive. Si je vous dis que Dieu est vivant, ça vous paraît une évidence. Alors, qui est le plus près de la vie de Dieu? C'est-à-dire, qui est le plus vivant? Entre le chartreux qui ne fait rien, en apparence, et l'ouvrier qui fait beaucoup de choses. De même, qui est le plus vivant entre le monde moderne qui passe son temps à s'agiter et le monde ancien qui vivait dans la paix? Pourquoi dans la paix? Parce que, ayant atteint une richesse spirituelle, à savoir l'union à Dieu, rappelez-vous, et l'enfant qui a fait sa première communion, faut toujours revenir à cela. Cet enfant qui est entré dans la vie de Dieu à 7 ans par la première communion. Eh bien, quand il grandit, il est tellement plein de cette présence de Dieu en lui, qu'il cherche peu de choses à l'extérieur. Vous allez me dire, je brosse là un tableau idéal. Oui, mais le Moyen Âge était assez proche de cet idéal, alors que le monde, et en tout cas il le cherchait, alors que le monde moderne est très éloigné de cet idéal et qu'il le méprise et qu'il s'en moque et qu'il voudrait le détruire. Maintenant, troisième partie de ce sermon, on pourrait croire que Dieu n'est pas vivant puisqu'il ne bouge pas, puisqu'il ne change pas. Et saint Thomas nous dit, non, en réalité, on appelle vivant celui qui bouge parce que ça se voit, mais on appelle vivant celui qui a acquis la perfection grâce à son changement. Et si, s'il possède une perfection sans avoir eu besoin de l'acquérir, parce qu'il n'a pas besoin de changer, on dit quand même qu'il est vivant. C'est ainsi que un professeur est vivant quand il possède bien son sujet et qu'il vous en montre toute la beauté, tout le rayonnement, toute la perfection. Vous êtes captivé, non pas parce qu'il fait des grands gestes. Ça, c'est une façon d'être vivant. Vous êtes captivé parce que le sujet qu'il expose est beau. Et on arrive là à la notion de vivant qui est au terme de notre analyse, c'est-à-dire que le changement a pour but une perfection. J'insiste un petit peu lourdement, mais notre monde moderne insiste tellement lourdement dans l'autre sens que je pense que c'est nécessaire. Par conséquent, Dieu est le grand vivant. Parce que la vie, c'est cela, c'est la perfection, c'est le passage à la perfection. Or Dieu, je vous l'ai déjà dit, n'a pas la perfection, il ne la possède pas, il est la perfection. Ce n'est pas le verbe avoir, c'est le verbe être. Il y a identité en Dieu entre la vie et Dieu. Dire que Dieu est vivant, c'est dire que Dieu est Dieu, qu'il est parfaitement Dieu. Eh bien, il faut en tirer les conclusions. Ce sera peut-être une quatrième partie du sermon, si vous le voulez. Comment vit-on cette vie que nous avons à mener? Saint Thomas d'Aquin va nous la décrire dès que nous serons sortis de la première partie de la somme théologique. C'est la morale, puisque la morale, c'est les mœurs, et les mœurs, c'est la vie. Les mœurs d'un animal, c'est la vie d'un animal. Les mœurs de l'homme, c'est la vie de l'homme, la manière de vivre. C'est la manière de vivre. Et cela, je vous l'ai déjà décrit, je vous ai déjà fait de nombreux sermons sur la vie morale de l'homme. Reprenons cela un peu brièvement. Saint Thomas achève son analyse de la vie morale par les rapports entre la contemplation et l'action. La vie essentielle que nous devons mener est une vie contemplative. Tout chrétien est contemplatif. J'ai pas dit que les chrétiens n'étaient pas actifs. Ça, c'est encore une erreur moderne de laisser croire à l'opposition entre la vie contemplative et la vie active. Au contraire, il n'y a de vraiment actifs que les contemplatifs. Parce que il faut une raison à l'action. L'action consiste à bouger, à obtenir un terme. Il faut être pris par ce terme. Celui qui n'est pas pris par le terme, que fait-il? Il reste dans son divan en buvant une bière. Donc, tout chrétien est contemplatif. Et il y a des chrétiens que Dieu appelle à vivre presque exclusivement dans la contemplation, mais ils sont rares. Ce sont les chartreux, ce sont beaucoup les vieillards aussi. Les vieillards, le bon Dieu a donné à tous les hommes cette période de la vie dans laquelle l'action extérieure diminue, justement pour faire prendre conscience à tout le monde de l'importance de cette vie qui ne bouge pas, qui s'approche de la vie éternelle, et il ne faut pas regretter de vieillir, et il ne faut pas regretter en disant je ne peux plus courir, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus m'occuper de ma maison. D'autres le font pour vous, et c'est tout à fait dans l'ordre. Parce que à eux aussi, cela leur fait beaucoup de bien de se dévouer, et eux aussi, ce faisant, s'approchent de la vie éternelle. Mais je vais vous en parler. Cette vie contemplative, nous devons la développer par la méditation, par les lectures spirituelles, par la récitation du chapelet, qui est une contemplation des mystères de l'Évangile, par la participation au sacrifice eucharistique, qui est vraiment alors la source de la vie au pied de la croix. Dieu sait s'il est père de l'Église, et même la liturgie, avec la préface de la croix, le contraste entre la mort de Jésus-Christ qui nous transmet la vraie vie. Et voilà pourquoi nous mettre au pied de la croix est important. C'est une des raisons pour lesquelles c'est important. Parce que nous mourons au monde et nous vivons à la vraie vie. Le monde est plein d'une fausse vie et il faut mourir au monde. Celui qui perd sa vie la gagnera, celui qui sauve sa vie la perdra. Et évidemment, il s'agit de la vie du monde et de la vie éternelle. Cette vie contemplative, elle s'acquiert. Elle s'acquiert justement par la vie morale. La vie morale qui est à la fois une acquisition pour nous par les vertus morales et un rayonnement autour de nous, notamment par la vertu de justice, un rayonnement de la vie chrétienne qui est en nous. Et nous attirons les autres à la vie chrétienne. Un grand-père attire à la vie éternelle les petits-enfants qui s'occupent de lui et qui se donnent du mal. Quand il s'agit de convertir des non-croyances et de l'apostolat, quand il s'agit d'attirer des hommes qui sont dans la peine, dans la misère, de les attirer à Dieu, il s'agit des œuvres de miséricorde, mais dans tous les cas, la richesse de l'action se prend dans la vie intérieure surnaturelle, dans l'amour de Dieu et dans la foi. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la quatrième voie de la preuve de l'existence de Dieu. Toute perfection en nous dérive à sa source dans une perfection divine, et en Dieu même, je veux dire, à sa source en Dieu lui-même, et par conséquent notre vie, et surtout notre vie apostolique, je ne vous parle pas de la vie du corps, mais plus notre vie intérieure est riche, et plus notre rayonnement vital sera puissant et attirant. Il resterait à conclure avec les obstacles à la vie, de même qu'on parle de ce qui est mauvais pour la vie du corps, il faut parler de ce qui est mauvais pour la vie de l'âme et pour la vie surnaturelle en nous. Le premier obstacle, c'est le monde. Le premier de tous les obstacles, c'est nos vices, c'est nous-mêmes avec nos vices. Celui qu'il faut vaincre en premier, c'est nous, parce que c'est nous qui sommes attirés à cause du péché originel. Le deuxième obstacle, c'est le monde, et je pense qu'on ne se méfie pas assez du monde. Seulement, le seul moyen de se méfier du monde est de ne pas être contaminé par lui, mais je crois que je vous ferai un jour un exposé sur le monde. Oh, je vous en ai déjà parlé dans des sermons. C'est de le sortir de sa torpeur, c'est de l'attirer à Dieu, c'est de lui montrer qu'il s'endort dans une vie qui n'est plus la vie, et de lui rendre la vraie vie que Dieu a voulu pour lui. En éducation, c'est capital, c'est essentiel. L'enfant, à l'âge de la première communion, entre dans la vie divine sans autre préoccupation. C'est merveilleux cela. Dieu lui a donné que ses parents s'occupent de lui, tout le monde s'occupe de lui, il n'a pas d'autre préoccupation que d'être à Dieu et avec Dieu. Puis quand il entre dans l'adolescence, sa première constatation est de voir que le monde est mauvais et qu'il faut ramener le monde à Dieu. Toute autre éducation que celle-ci est une éducation faussée. Et comme c'est difficile de ramener le monde à Dieu, voilà pourquoi l'adolescence dure, disons, une dizaine d'années pour apprendre à ramener le monde à Dieu. Comment on influence le monde pour l'amener à Dieu? Vous me direz peut-être, mais c'est là un programme extraordinaire, surtout très vaste. Un seul sermon ne nous permet pas de comprendre cela. Et puis, vous nous donnez bien sûr les principes, monsieur l'abbé, mais comment fait-on? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sermons. C'est pour ça que vous vivez un certain nombre d'années sur la terre, pour découvrir cela petit à petit. un grand amour de la Très Sainte Vierge. Consacrez-vous à la Très Sainte Vierge. Prêchez la consécration à la Sainte Vierge. Recommandez la consécration à la Sainte Vierge. Faites que vos enfants se consacrent à la Sainte Vierge. Ils entreront profondément dans la vie de Dieu et cela les préservera beaucoup de l'amour du monde, du désir du monde, et cela leur donnera un grand rayonnement parce que, comme je vous l'ai dit, la vie intérieure puissante est la source d'un rayonnement puissant. Ô Marie, siège de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.